VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 4 septembre 2017, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Au Kenya, le chef de l'opposition, Raila Odinga, réclame de nouveau le départ des dirigeants de la commission électorale.
Au Gabon, l'opposant Jean Ping et plusieurs autres leaders de l'opposition interdit de sortir du territoire.
En République démocratique du Congo, le leader de l'opposition, Félix Tshisekedi, a vécu un retour tendu hier à Kinshasa.
Washington avertit Pyongyang d'une réponse militaire massive en cas de menace directe contre les États-Unis ou leurs alliés.
9 jours après les inondations dévastatrices provoquées par l'ouragan Harvey, la ville la plus touchée, Houston, serait prête à reprendre son rôle dans le secteur des affaires.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Kenya, le chef de file de l'opposition, Raila Odinga, a appelé encore une fois au départ des dirigeants de la commission électorale qu'il qualifie de voleurs. Il a par ailleurs affirmé qu'il ne partagerait pas le pouvoir avec le camp du président sortant, Uhuru Kenyatta. Précision de Jean-Roger Bion.
2 jours après l'annonce historique par la Cour suprême du Kenya de l'invalidation des résultats annoncés le 8 août dernier par la commission électorale, Raila Odinga a déclaré que son parti n'accepterait pas de scrutin avec les dirigeants actuels de l'institution. Ces voleurs doivent s'en aller, nous ne leur permettrons pas de conduire les nouvelles élections qui doivent être organisées avant le 31 octobre, a dit M. Odinga à ses partisans à Nairobi. Le jugement complet de la Cour doit être publié d'ici au 22 septembre, mais déjà les deux principaux candidats, Kenyatta et Odinga, cherchent à galvaniser leur base. Si l'opposition a félicité le courage des juges de la Cour suprême, le président les a attaqués ouvertement en rappelant que personne ne les a élus. Les juges ont répondu hier qualifiant les remarques de Uhuru Kenyatta d'agression contre le pouvoir judiciaire. Le leader de l'opposition Raila Odinga et son rival, le président sortant, ont déjà affiché leur opposition à un éventuel partage du pouvoir.
Le principal opposant gabonais, Jean Ping, et plusieurs leaders de l'opposition ont été interdits de sortir du territoire en réponse à ce que les autorités qualifient d'appel au trouble à l'ordre public. Cette mesure est consécutive aux propos séditieux de Jean Ping tenus le 18 août 2017 quand il appelait au trouble à l'ordre public, à la rébellion et à l'insurrection, a déclaré le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Ce dernier a fait savoir qu'il s'agit d'une mesure administrative provisoire concernant les responsables des partis politiques et personnalités au sein de la Coalition pour la Nouvelle République, la CNR, autour de Jean Ping. La CNR a annoncé la tenue ce lundi d'un rassemblement national dans un collège de la capitale Libreville.
En République démocratique du Congo, le leader de l'opposition, Félix Tshisekedi, a vécu un retour tendu dimanche à Kinshasa, où les autorités avaient interdit la veille un meeting de sa force politique. Plusieurs dizaines d'agents de la police anti-émeute et d'autres policiers cagoulés ont filtré l'entrée des piétons dans le quartier de sa résidence pendant près de 2 heures, selon l'AFP. Les véhicules d'opposants et des médias qui étaient dans le cortège de M. Tshisekedi ont tous été bloqués par la police à l'entrée de la rue qui mène à la résidence familiale. Le président du rassemblement de l'opposition était de retour en RDC après un séjour en Europe et aux États-Unis.
Dans l'Angola voisin, 4 partis d'opposition ont exigé hier un recomptage des voix exprimées lors des élections générales du 23 août, jugeant irréguliers les résultats qui ont accordé la victoire au parti au pouvoir depuis 42 ans. Le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le MPLA, a été crédité par la Commission nationale électorale de 61,1% des suffrages et d'une majorité absolue de 150 des 220 sièges du Parlement, selon un comptage provisoire portant sur 97% des bureaux de vote publiés 2 jours après le scrutin. La Commission électorale nationale doit proclamer mercredi les résultats définitifs.
En Côte d'Ivoire, 96 prisonniers se sont évadés dimanche de la prison de Kathiola, dans le centre du pays, à 45 km au nord de Boaké. Les détenus sont passés par le toit de leur cellule pour regagner d'autres cellules et ils ont profité de la sortie des corvéables pour casser le grand portail et prendre la fuite, a expliqué à l'AFP une source au sein de la prison. La question de la sécurité est brûlante en Côte d'Ivoire depuis le début de l'année, après des mutineries dans l'armée et une série d'attaques contre des postes de police et de gendarmerie et une série d'évasions des prisons.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La communauté internationale a unanimement dénoncé le dernier test nucléaire de la Corée du Nord, tandis que Washington cherchait à rassurer ses alliés dimanche en avertissant Pyongyang d'une réponse militaire massive en cas de menace directe contre les États-Unis ou leurs alliés. Pascal Gabriela Serra nous en dit plus.
Sur le terrain, la réaction de la Corée du Sud a pris hier soir la forme de tirs de missiles balistiques dans le cadre de manœuvres faisant suite au sixième essai nucléaire annoncé par Pyongyang et confirmé par la communauté internationale. Selon l'agence officielle sud-coréenne Yonhap, cet exercice à munitions réelles a simulé une attaque sur le polygone de tir nucléaire nord-coréen et touché des cibles situées à une distance équivalente. Au plan diplomatique, les réactions ont été unanimes. Moscou, Paris, Berlin, Rome, Washington ont qualifié l'essai nucléaire nord-coréen de provocation et de violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Néanmoins, la Russie appelle à une réponse n'impliquant pas d'action militaire. L'Union européenne pourrait envisager des sanctions additionnelles. Quant au gouvernement américain, il maintient son droit à l'option militaire, même si le général Jim Mattis, secrétaire à la défense de Donald Trump, a précisé que le but n'est pas l'anéantissement de la Corée du Nord. Il s'est ainsi prononcé au sortir d'une rencontre de l'équipe de sécurité du président à la Maison-Blanche. Washington continue de miser sur des actions plus fermes de la Chine, principal allié de Kim Jong-un, pour mettre un terme aux provocations du régime nord-coréen.
Et selon des officiels de la Maison-Blanche, le président Trump a par ailleurs souligné dans une conversation avec le premier ministre japonais Shinzo Abe l'éventail des mesures de représailles, y compris les armes nucléaires, dont disposent les États-Unis pour défendre le pays, les territoires américains et les alliés de l'Amérique. Monsieur Trump a aussi dit sur Twitter qu'il envisageait d'arrêter tout commerce avec tout pays faisant des affaires avec la Corée du Nord. On ne sait pas pour le moment ce que cela signifierait pour les liens commerciaux entre les États-Unis et la Chine. Et le commerce estimé à 650 milliards de dollars entre les deux pays. Pékin est le seul grand allié de Pyongyang et son principal partenaire commercial.
9 jours après les inondations dévastatrices provoquées par l'ouragan Harvey, le maire de la ville la plus touchée assure que Houston est prêt à reprendre son rôle dans le secteur des affaires. Houston is open for business, a dit Sylvester Turner. A-t-il raison, de Gaby Dorsil?
Pour beaucoup, la quatrième plus grande ville des États-Unis, après New York, Los Angeles et Chicago, est loin de pouvoir répondre à pareille demande. Le message que voulait lancer le maire de Houston hier, lors de son entretien sur la chaîne de télévision CBS, c'est la volonté des dirigeants locaux de faire plusieurs choses en même temps. Il faut évacuer les résidents encore en difficulté dans leurs maisons inondées. Le maire Turner dit que tous ceux qui résistent à l'ordre d'évacuation mettent en danger non seulement leur propre vie, mais aussi celle des secouristes. Il faut continuer d'apporter de l'aide aux victimes des centres d'accueil temporaires et lancer les efforts de reconstruction. Les ingénieurs de l'armée américaine prévoient de libérer l'eau de 2 réservoirs dans certaines parties de l'ouest de Houston pour éviter les ruptures de barrages, ce qui va inonder délibérément jusqu'à 20 000 foyers. Dimanche, les pompiers ont commencé à brûler de façon contrôlée une certaine quantité de matière toxique à la centrale chimique d'Arkema, près de Houston. L'ouragan Harvey a fait au moins 44 morts et, selon le gouverneur du Texas, Greg Abbott, des dégâts matériels évalués jusqu'à 180 milliards de dollars.
Julio Borges, président du Parlement vénézuélien et opposant au président Nicolas Maduro, se trouve en Europe pour des rencontres avec 4 chefs d'État et de gouvernement. Selon un communiqué publié hier à Caracas par ses services, M. Borges va rencontrer successivement le président français Emmanuel Macron, le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, la chancelière allemande Angela Merkel et la première ministre britannique Theresa May pour discuter de la crise au Venezuela. Le pays vit une grave crise économique économique, politique et institutionnelle. Au moins 125 personnes ont été tuées dans des manifestations organisées par l'opposition pour réclamer la démission du président socialiste Nicolas Maduro. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Jacques Aristide.
En RD Congo, une réunion est prévue ce lundi entre le ministre de l'économie, Joseph Kapika, et les principaux distributeurs des produits pétroliers pour éviter toute pénurie d'essence. Les distributeurs affirment n'être plus en mesure d'approvisionner adéquatement la RDC en raison de difficultés financières et veulent ainsi augmenter le prix du carburant, ce à quoi s'oppose le gouvernement. Kinshasa dit disposer d'un stock important de produits pétroliers. Le gouvernement ivoirien compte emprunter 80 milliards de francs CFA sur les marchés internationaux pour boucler son budget 2017 et gérer sa dette publique. L'opération appelée obligation synthétique, une première dans cette partie de l'Afrique, démarrera le 12 septembre sur les marchés de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le montant mobilisé devrait permettre de réduire la contribution du trésor public au budget qui atteint 137,3 milliards. De francs CFA, l'obligation synthétique est assortie d'un taux d'intérêt de 5,7 à 6,2% sur une durée de 10 ans. Le Nigeria et l'Afrique du Sud, les deux plus grandes économies africaines, sont sorties de la récession d'après une étude de Reuters qui ajoute toutefois que la croissance économique ne se manifestera pas avant que ne soit rétablie la confiance chez les entreprises.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Éliminatoire du Mondial 2018 en Afrique, quatrième journée aujourd'hui. L'occasion pour la RD Congo de rattraper son retard face à la Tunisie.
Effectivement, le premier match pour le contrôle de ce groupe B avait tourné à l'avantage des Tunisiens qui en même temps ont viré en tête. Les Congolais doivent hausser le niveau de leur jeu pour refaire leur retard. Déjà ce soir, la Guinée troisième du groupe est toujours en course pour la qualification sur la Libye.
Toujours aujourd'hui, le champion d'Afrique risque gros face au Nigeria.
Oui, le Cameroun qui a participé à 6 des 7 dernières Coupes du Monde risque fort de ne pas se qualifier pour la prochaine édition en Russie. La faute à cette déroute 4-0 au Nigeria. Conséquence, les Lions sont désormais relégués à 7 points des Super Eagles proche d'une qualification. Le match de ce soir sera donc capital pour les Camerounais qui ont l'obligation d'empocher les 3 points, de même pour l'Algérie qui reçoit la Zambie qui l'a battu 3-1 lors de leur première confrontation.
Comme le Cameroun, le Ghana aussi est en péril.
Des Ghanéens qui sont passés tout près d'une défaite à Kumasi vont devoir gagner demain à Brazzaville afin de se relancer dans un groupe E dominé par l'Ouganda, vainqueur de l'Égypte 1-0. Le prochain match prévu au Caire entre ces deux équipes promet donc.
La suite demain de cette quatrième journée avec un Mali revanchard contre le Maroc.
Oui, corrigé à Rabat 6-0, les Maliens ont vu leurs chances de qualification diminuer dans le groupe C. À Bamako, ils auront besoin d'une victoire pour oublier le cauchemar de vendredi dernier. Les Lions de l'Atlas, eux, vont chercher un résultat positif afin de suivre le rythme imposé par la Côte d'Ivoire, victorieuse du Gabon 3-0. Dans le groupe D, tout reste encore ouvert. Le Burkina Faso après le nul 0-0 à Dakar contre le Sénégal. D'ailleurs, un nul qui n'arrange pas les deux équipes doit prendre les 3 points pour se mettre en bonne position en vue de la seule place qualificative pour le Mondial. Une place également convoitée par l'Afrique du Sud qui a laissé des points au Cap-Vert.
Élisée, l'Europe aussi est concerné par ces éliminatoires.
Oui, Idrissa est dans le groupe A. La France accrochée à domicile par le Luxembourg 0-0 garde tout de même la première place devant la Suède. La Suisse victorieuse en Lettonie 1-0 est toujours leader du groupe B devant le Portugal vainqueur en Hongrie 1-0. La Belgique dans la poule H s'impose 2-1 en Grèce et devient la première nation européenne qualifiée pour ce mondial 2018. Les Diables Rouges rejoignent ainsi la Russie, pays hôte, le Brésil, l'Iran, le Japon et le Mexique déjà qualifiés.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, les déplacés du Poul dans le département de la Bouenza ont pour la première fois depuis plus d'un an accédé ce week-end à l'aide alimentaire, et ce grâce à un don de quelque 250 millions de francs CFA du gouvernement américain. Notre correspondant Gwela Ngusu a assisté à la distribution de cette aide alimentaire.
Les États-Unis ont été les premiers à mettre la main dans la poche pour aider quelques 138 000 déplacés du Poul, jusque-là dans le dénuement total. 250 millions de francs CFA est le montant de ce don que va gérer le programme alimentaire mondial. Les premiers sacs de riz, de sel, les bidons d'huile sont parvenus ce week-end à quelques 6 463 déplacés accueillis dans la région voisine de la Bouenza.
Vraiment, je suis satisfait pour le bien qu'on nous a donné parce que on se débrouillait de nous-mêmes. Si tu n'as pas l'argent, tu peux faire même 2 jours sans manger. Là, ça doit nous soulager, oui, pour quelques temps.
Bon, mais ça nous soulage, mais c'est insuffisant. Parce que là où je reste chez moi, je ne mange pas tel que je mange aujourd'hui ici à l'OTT. Le logement aussi, on se loge mal. Tout ça, c'est les difficultés qu'on est en train de vivre ici.
Nous sommes libres de travailler, de faire même les champs, de faire quoi que ce soit, l'agriculture, la pêche, tout ça. Mais ici, là, nous sommes bloqués.
Dans la ville de l'OTT, où se sont réfugiées 2300 personnes, l'assistance alimentaire se fait par transfert d'argent. Jean-Martin Bauer, représentant du PAM à Brazzaville.
Je précise qu'ici, dans le Poul, dans la réponse à l'urgence du Poul, nous utilisons 2 systèmes. Nous avons le système Mobile Money que vous avez vu, mais aussi les distributions en nature, par Akimwanda, où les gens reçoivent des produits parce qu'ils sont trop éloignés des marchés. Mobile Money, ça peut marcher dans un centre comme l'OTT, comme ici, où il y a des boutiques, où il y a la couverture, mais dans les endroits plus enclavés, on continue avec la stratégie en nature. Donc nous avons prévu d'apporter une alimentation spécifique aux femmes enceintes et allaitantes, et aussi aux une alimentation spécialisée pour les enfants de 6 à 59 mois. Il s'agit d'aliments prêts à l'emploi.
L'ambassadeur des États-Unis, Todd Haskell, a tenu lui-même à voir comment la nourriture devait parvenir à 900 déplacés de Kimandu.
Vraiment, c'est très émouvant pour moi. Et vraiment, nous avons écouté l'appel pour assistance du gouvernement du Congo et nous avons répondu. Et je suis vraiment très fier de mon pays maintenant que nous pouvons aider un ami dans une situation difficile.
Mais les besoins restent importants et la communauté internationale continue de rechercher une dizaine de milliards de francs CFA pour aider le Poul. Antoine Ndinganjodo est ministre en charge de l'action humanitaire.
Au moment où nous avions fait l'enquête qui avait donné les chiffres très élevés, même la route lourde, il n'y avait plus de trafic, mais en ce moment, la route a repris, donc le nombre de déplacés a commencé à baisser. Ces déplacés-là, ce sont ceux qui ont perdu leur maison, qui ont tout perdu, qui n'ont plus rien, qui ne peuvent plus repartir dans leur maison.
Ce début de réponse devrait normalement donner la possibilité d'accéder à des milliers d'autres personnes sans soutien au cœur des violences dans le Poul. De retour de Kimwanda, Ngwela Ngusu, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
En République démocratique du Congo, les étudiants encadrés par la commission diocésaine Justice et Paix au Sud Kivu refusent toute manipulation politicienne en milieu universitaire pendant le processus électoral en cours en RDC. Ces jeunes l'ont réaffirmé au cours d'une matinée d'échange et de vulgarisation du message des évêques catholiques congolais intitulé « Nous voulons des élections apaisées ». Les détails avec notre correspondant à Bukavu, Ernest Muhero.
C'est dans la salle Annonciata à Bukavu qu'une centaine de jeunes venant du monde universitaire et associatif se sont donné rendez-vous avec la commission diocésaine de justice et paix de l'archidiocèse de Bukavu. Une véritable prise de conscience au regard d'une certaine agitation qui s'observe de plus en plus dans les pays à l'approche de la date convenue au plus tard fin décembre 2017 pour la tenue des élections présidentielles selon les accords de la Saint-Sylvestre. Arsène Baroumana, porte-parole des étudiants de l'Institut supérieur des techniques médicales Istem Bukavu, interpelle.
Détiennent le pouvoir aujourd'hui, ils doivent veiller au bien-être de la population et à répondre aux droits de la population. Et le premier droit, c'est les élections.
Pour l'orateur du jour, l'abbé Justin Konzi, la jeunesse congolaise représente 65% de la population du Congo et il est impérieux que les jeunes s'approprient le processus électoral au lieu d'être des caisses de résonance de telle ou telle autre tendance politique.
Je voulais dire aux jeunes qu'ils doivent être proactifs, de ne pas subir les événements, mais de voir comment ils peuvent être une partie de la solution. Est-ce que les jeunes peuvent mettre ces processus dans leur agenda, en discuter et surtout bannir toutes les manipulations et s'écarter de tout ce qui peut les diviser.
Les milieux universitaires congolais étant devenus depuis des décennies les champs de recrutement des adeptes pour les politiciens, les étudiants présents à ces assises et leurs présidents ont dit non à toute manipulation politicienne. Certains en parlent.
Aux étudiants de tout faire pour ne pas entrer dans toutes les manipulations politiques et à tous les politiciens, vraiment nous avons besoin de la paix.
Quand nous avions accepté d'entrer dans les bateaux de la démocratie, nous devions aussi accepter les conséquences de la démocratie. Ce qui va arriver demain dépendra de ce que nous voulons aujourd'hui et ce que nous faisons. Et donc, ce cadre m'a permis de prendre conscience de qui je suis, qu'est-ce que je dois faire à mon niveau. Il faut que les choses changent.
Nous ne devons pas nous voiler la face. Il y a certaines choses qui n'ont pas été respectées du point de vue de la gérance du pays et tout ça. Moi, je n'aimerais pas être parmi ces gens qui vont se laisser gagner par telle ou telle autre propagande. Alors, je peux utiliser par exemple ma musique pour faire passer certains messages qui vont faire réfléchir, que je remette chacun à sa responsabilité et qui voit comment agir par rapport à la situation.
Rémi Kassindi, ancien boursier du département d'État du gouvernement américain vivant à Bukavu, pense que l'État congolais doit rester à l'écoute des désidérats de sa population, particulièrement ses jeunes.
J'ai beaucoup apprécié les interventions de ces jeunes. Ce que j'ai senti, les politiciens doivent comprendre qu'ils ont des volcans qui risquent d'entrer en ébullition et ces volcans en ébullition sont des jeunes. Pour nous, il faut qu'on ait les élections.
De Bukavu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Bukavu sur 97.4 FM.
Au Rwanda, en plein cœur de Kigali, la capitale, deux laboratoires, l'un de recherche et l'autre de fabrication, ont été installés par des jeunes entrepreneurs pour le coaching et l'accompagnement de leur père dans l'entrepreneuriat. Charlie Kasereka est allé à la rencontre de cette jeunesse rwandaise tournée vers l'avenir.
Ils innovent, certains apprennent et d'autres sont déjà des modèles ici au Rwanda. Tous, ils ont un point commun, c'est l'Internet. Bienvenue à Kailab, le laboratoire de Kigali où ces jeunes développent leurs projets. Christelle est membre de l'équipe managériale.
Ce qu'on fait ici, c'est leur offrir le mentorship gratuit et l'Internet. Et l'espace est ouvert tous les jours, 7 jours par semaine. Ils ne peuvent pas payer des loyers pour des bureaux.
À côté, c'est un autre laboratoire de fabrication, en abrégé Fab Lab, où ces idées prennent forme. Ici, des machines et des imprimantes 3D et même des prototypes et des drones Made in Rwanda. La directrice générale Dusabe Miriam nous fait visiter.
It's a hardware innovation space for people who've got different innovative ideas. They have different machines that they come and use as they work on their ideas. Yeah, this is a drone made by our men here in Fab Lab Rwanda.
Situé en plein cœur de la capitale rwandaise, plus de 1000 jeunes sont encadrés annuellement dans ces deux laboratoires, dans la grande salle, des dizaines de jeunes, tous accrochés à leurs écrans d'ordinateur et d'autres au téléphone portable. Certains viennent des pays voisins de la sous-région des Grands Lacs. Alain, la vingtaine, est venu de la RDC voisine et veut, après sa formation, retourner au Congo pour inciter d'autres jeunes.
Pourquoi là, je suis entré juste de terminer avec ma formation, peut-être d'entrer au pays pour continuer. Mais je pense que l'Internet peut être utilisé comme outil pour booster le développement économique des différents pays du continent.
28 ans, pour Élisée, lui, il a déjà créé son entreprise pour la fabrication de la farine, des bouillies. Son objectif, c'est de lutter contre la malnutrition dans sa communauté. Il emploie aujourd'hui 6 autres jeunes comme lui pour une production mensuelle de 600 kg de la farine Itoto, c'est sa marque.
Itoto, c'est comme le Rwandais qui peut dire la beauté. La philosophie là-dedans, c'est comme si tu
consomme à l'intérieur, si on l'a, l'aliment qu'on prend, et sans ça reproduise à l'extérieur. C'est un paquet d'un kilo. C'est un mélange de carottes, betteraves, maïs, soya. Et j'aimerais avoir les grands chats pour cultiver ce que je dirige.
Ici, le gouvernement soutient et accompagne ces différents projets. La dernière application créée au Rwanda est utilisée dans les transports en commun. Tous les bus sont équipés aujourd'hui d'un dispositif de pay cash. Ce dispositif permet aux passagers de payer leur ticket via une carte électronique. L'appli a été créée par un jeune Rwandais. La sécurité, la stabilité et la lutte contre la corruption favorisent la convoitise des entrepreneurs étrangers. Et aujourd'hui, les infrastructures se développent tous les jours ici au Rwanda. Charles Kassereka, des retours de Kigali pour VOA Afrique.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
Au Tchad, les éleveurs de bétail pratiquaient depuis des années le nomadisme ou la transhumance. Ils descendaient du nord vers le sud pendant la saison sèche pour ensuite remonter de juin à novembre. Mais ces éleveurs se sédentarisent. C'est ainsi qu'à N'Djamena, ils campent tout autour de la ville. Reportage d'André Kodmajingar.
Ces éleveurs érigent un carré parmi les 14 que constitue le quartier Toukra, circonscription de la commune du 9e arrondissement municipal situé à la sortie sud de la capitale. Ils se sont installés sur ce site depuis plus de 10 ans. Et voilà, ils sont rattrapés par la pression démographique. Ces éleveurs nomades ont une école dénommée Nouvelle Race pour l'éducation de leur progéniture. Malheureusement, les filles sont données en mariage très tôt et les garçons préfèrent plutôt aller derrière le bétail que d'aller en classe. Mariam Hassan et Adam Mahamat respectivement, en classe de cours moyen, première année du primaire et quatrième au collège d'enseignement général, donnent des conseils à leurs camarades.
Je vais dire que l'école est bonne. Si l'école me voit là, je parle comme ça. Si je parle le français, ils vont me dire que je l'ai insulté et je n'insulte pas.
Je veux leur conseiller pour qu'ils fréquentent et comprennent les langues françaises. Parce que nous les nomades, on n'a pas les ministres, ni gouverneurs, ni sous-préfet, parce qu'on ne fréquente pas.
À chaque saison de pluie, ces nomades renvoient toute leur fortune et bétail vers le centre du pays à cause des intempéries, comme en témoigne Blama Hassan Azem Abdoulaye.
À de telles périodes, on envoie nos bétails dans les régions de Hadjerlamis et Kanem pour les perdre. Surtout les chameaux n'aiment pas de l'eau sale et la boue. D'ailleurs, ici, tous les espaces sont cultivés, donc nous sommes obligés de les déplacer à cause des pâturages. On garde quelques têtes de moutons et chèvres ici pour notre survie.
Maïmouna Abou Samad, épouse de Boulama Hassan Hazem Abdoulaye, elle évoque les difficultés que cette frange de la population rencontre pendant cette période de soudure pour se nourrir.
En cette saison de pluie, si tu tombes malade, il faut avoir au moins 5000 francs pour aller à l'hôpital. Mais avec cette situation de crise sociale, on va trouver l'argent où? Nos bœufs sont tous en pâturage. Même pour se nourrir, je suis obligée de prendre du lait des chameaux avec les autres pour le faire tailler et aller revendre. Et c'est avec le bénéfice que j'achète de quoi à manger à mes enfants.
Justement, Mariam, une élève âgée de 10 ans, profite de ses vacances pour vendre ses produits au bord de la grande voie à l'entrée sud de la ville de N'Djamena. Elle exerce cette activité avec tout le risque, mais elle parvient quand même à épauler ses parents.
C'est le lait du bien, c'est pas le lait du chameau. Si on a gagné là, on trouve 2000.
2000 par jour?
Oui.
Qu'est-ce que vous faites avec l'argent?
On paye les habits, on paye les nourritures. Ceux qui les chameaux sont malades là, on donne les gens, ils piquent là, comme les docteurs qui piquent les chameaux.
André Kodmadi Dingar Djamena, VOA Afrique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur votre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Now that ain't enough.
monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Alperson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.